La question qu'on a voulu poser à Marie-Amandine de Belbouffe et à Joachim sur ce point-là, c'est qu'est-ce qui les a poussés à se lancer dans une démarche de production de connaissances et comment ils ont choisi de le faire. Donc voilà, le pourquoi et le comment. Et c'est donc dans cette partie-là, on les invite à présenter leur structure et ce qui les a motivés à se lancer dans cette démarche.
Merci. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle donc Marie-Amandine Vermillon. Je suis psychologue sociale et j'ai cofondé l'association Belle Bouffe. Donc, je vais vous dire quelques mots sur cette association avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Belle Bouffe, c'est une association lyonnaise qui est née en 2019, qui agit en faveur d'un système alimentaire local plus écologique et solidaire. Donc nous, ce qu'on met derrière notamment, c'est aller vers plus de transparence alimentaire, vers plus aussi d'autonomie alimentaire et aussi de justice alimentaire. Alors voilà, on va mettre un peu plein de dimensions autour de la question de l'écologie, de la solidarité. Et pour ça, on mène des actions à la fois d'éducation populaire, mais aussi d'accompagnement au changement pour permettre aux petits comme aux grands de pouvoir reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Alors, depuis la crise sanitaire, on a un peu été chamboulé dans nos actions, évidemment, comme je pense un certain nombre, enfin de tout le monde ici ce soir. Et donc, je voulais vous parler de ce qui s'est passé. Je vais voir si j'arrive à bouger les slides. Non. Donc, je veux bien que tu changes la slide. Et donc, vous parlez d'une initiative qu'on a menée déjà au début du premier confinement, quand notamment les marchés ont été fermés, où on a vu que voilà, il y avait un certain nombre d'éléments qui montraient que, à la fois côté mangeur, mais aussi côté producteur, il y avait des besoins. Les producteurs qui avaient besoin d'écouler évidemment leur production, et puis les mangeurs qui avaient besoin d'accéder à une alimentation près de chez eux, qui pouvait être locale, notamment pour ceux et celles qui étaient habitués à aller au marché. Et donc, on a créé en fait une carte qui a recensé les moyens de manger local, bio, sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc là, vous avez du coup le lien si vous voulez aller voir la carte. On a réussi à recenser en quelques jours près de 650 moyens de s'approvisionner. Donc ça va de la MAP à une épicerie, à tous les drives producteurs qui avaient été mis en place, en vraiment plein de façons d'accéder à une alimentation durable. Et puis, on a vu qu'il y avait un vrai engouement de la part des mangeurs, de la part des habitants sur le territoire pour pouvoir bénéficier de ce service. On a eu plus de 50 000 connexions en quelques semaines sur la carte. Donc, ça a montré qu'il y avait un véritable engouement. Donc, en fait, nous, on a fait donc cette démarche-là jusqu'en avril, ou là, à peu près vers le 30 avril, on en était à ces 650 solutions référencées, puis ces 50 000 visites. Et on s'est dit, ce serait bien de. Donc, je vais te laisser changer de slide. On s'est dit, en fait, que ce serait bien de comprendre un petit peu plus finement ce qui est en train de se jouer, d'essayer d'analyser les pratiques, les points de tension et les adaptations qui ont été mises en place par les acteurs de la chaîne alimentaire et nous, plus spécifiquement, de s'intéresser vraiment au volet consommation, donc à aller interroger les mangeurs et notamment les mangeurs de produits locaux en temps de confinement. Donc, on a voulu savoir un petit peu est-ce qu'ils sont habitués ou pas à ces manières de faire, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas eu des nouvelles pratiques d'approvisionnement qui ont pris place, peut-être même des nouvelles pratiques culinaires, quelles étaient leurs motivations, leurs préoccupations aussi, et puis de voir dans quelle mesure les pratiques alimentaires qui ont eu lieu pendant ce temps, notamment le premier confinement, est-ce qu'elles s'inscrivent ou au contraire, est-ce qu'elles se situent en rupture de leur trajectoire alimentaire? Donc voilà, c'était un peu no notre point de départ sur cette recherche qu'on a initiée. Moi, ce soir, j'avais envie de vous partager quatre raisons qui nous ont poussé et qui nous ont donné envie d'aller un petit peu plus loin. Donc déjà, c'est ce que j'ai dit, c'était un peu de comprendre ce qui était en train de se passer. Notamment avec voilà la carte qu'on a eue, on a bien compris qu'il se passait des choses, mais c'était de comprendre et d'objectiver un petit peu ça. Et puis aussi, quelque part, c'était de pouvoir, donc ça c'est venu après coup, mais aussi de documenter un petit peu cette période qui au final est historique, qui sortait de l'ordinaire, donc comment on peut laisser une trace à travers une enquête de terrain. Ça, c'était le premier point. La deuxième raison, c'était aussi de se dire qu'au-delà de la trace qu'on peut laisser pour documenter cet événement, c'est aussi de cette envie de créer une dynamique collective de production de connaissances avec à la fois des membres de l'association, mais aussi des acteurs plus traditionnels de la recherche et de se dire que l'idée, c'est pas que de produire la connaissance pour produire de la connaissance, mais aussi d'envisager dès le départ de cette démarche la capacité transformatrice et émancipatrice que ça peut avoir. D'une part, parce qu'en fait, les personnes qui ont été invitées à contribuer à ce projet, en fait, elles ont été amenées à adopter une posture de recherche qui leur a permis d'avoir quelque part une approche peut-être plus réflexive de leur propre pratique. Puisque quand on est habitant et qu'on vient enquêter sur ce que disait tout à l'heure Émilie, d'autres mangeurs, quelque part, on vient aussi questionner ce qu'on fait soi. Et puis, d'autre part, elle vient aussi donner des clés de compréhension et d'action pour favoriser la transition alimentaire. Puisque nous, concrètement, les résultats qu'on a pu en tirer, c'était notamment autour du changement de comportement et de voir qu'en fait, les changements de comportement vers une alimentation durable, ils vont se faire par étapes. On va avoir des mises en tension entre intérêts individuels, intérêts collectifs, intérêts à court terme, intérêts à long terme. Si vous voulez aller voir dans le détail, il y avait le lien normalement vers l'article qu'on a fait ensuite. Ça a permis aussi de montrer qu'il y avait une diversité de profils et de situations alimentaires, ce qui nous indique bien que les leviers pour pouvoir faire bouger un petit peu le système et les pratiques, ils vont être multiples et ils doivent bien sûr s'adapter à chacune des situations. On a fait aussi cette démarche parce que c'était un contexte où on a vu aussi des initiatives inspirantes fleurir à droite, à gauche, comme par exemple avec RMT qui a lancé une enquête sur manger au temps du coronavirus. Donc là, une enquête plutôt à l'échelle nationale qui a invité en fait tous les acteurs de la chaîne alimentaire à proposer leur vécu de la crise. Et donc ça nous a inspiré, nous dit il faut qu'on se lance aussi et qu'on aille enquêter nous sur le terrain avec vraiment l'approche territoriale. Et puis des rencontres imprévues comme Émilie qu'on a croisée par exemple je l'ai croisée en allant chercher un panier de producteurs pendant le confinement et se dire et j'ai rencontré un autre chercheur à ce moment-là et du coup se dire est-ce qu'il n'y a pas un terrain qui est vraiment favorable pour initier ça. Je vais te laisser changer la slide. Et donc on en est venu donc concrètement à mener une recherche exploratoire et qui donc était participative, donc dans le sens où des membres de l'association, dont la plupart étaient novices dans ce genre de pratiques, ont été invités à prendre part à la recherche, donc tant dans la collecte des données que dans l'analyse ou encore bientôt, parce qu'on est en train de finaliser tout ça, la valorisation des résultats. On a environ une dizaine de personnes qui ont contribué. Et puis également le regard d'acteurs plus traditionnels, plus académiques, notamment en psychologie sociale, qui ont pu venir éclairer nos questionnements lors des temps d'analyse collective. Donc, on a fait ce choix donc, pour plusieurs raisons que j'ai pu citer auparavant, mais aussi pour être encore plus précis, donc vraiment avec cette approche plutôt communautaire et participative, c'était dans une logique de faire monter en compétence aussi nos membres, quelque part, la communauté, notamment sur les questions de changement de pratique et un peu d'être dans une logique aussi de communauté apprenante où on apprend ensemble à travers des actions qu'on va mener pour essayer de s'interroger, d'aller chercher de l'information, etc. C'était aussi, pour une des raisons, c'était que c'était un peu une suite logique de la carte qu'on a créée, puisque la carte qu'on a créée, elle s'est faite de manière collaborative et elle était ouverte. Donc, n'importe qui peut contribuer. D'ailleurs, elle est toujours accessible. N'importe qui peut contribuer et proposer du contenu à travers cette carte. Donc, ça fait un peu partie de notre ADN, quelque part, la question du collaboratif, du participatif. Et puis, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Et bien sûr, pour mettre en place ce type de démarche, ça nous a demandé de structurer, de créer un cadre aussi organisationnel qui a permis ça. Donc, on a formé les membres à la passation d'entretien semi-directif, puisqu'on a adopté une approche qualitative. On a aussi créé tout un tas de, enfin, un kit en fait avec tout un tas d'outils pour permettre aux membres de l'association de bien saisir quand si jamais ils avaient des questions et que ils avaient envie de creuser plus loin des petites fiches outils, des modes d'emploi pour bien comprendre la recherche, tout un tableau aussi de suivi pour une fois qu'on passe un entretien, il y a quand même un certain nombre d'étapes à faire pour qu'on puisse après pouvoir les analyser tous ensemble. Donc on a mis en place, ça suppose aussi de mettre en place tout ce cadre-là. Et puis, comme je l'ai dit, on a fait donc deux temps d'analyse collective pour analyser les entretiens qu'on est allé mener tous ensemble. Et puis maintenant, on est en train de mettre en récit tout ce travail. Donc on a fait une première synthèse qui est arrivée, donc qui est disponible sur notre site. Et puis on va en faire une autre qui sera plus, on va dire, visuelle. Donc là, vous voyez notamment sur la slide certains membres qui ont contribué à la recherche. C'est pour ça que j'ai mis leur photo. On peut peut-être passer à la slide suivante pour finir pour mon intervention, pour cette première intervention. C'était aussi donc de vous montrer plus concrètement le panel. Donc on a essayé d'avoir un échantillon qui était hétérogène, donc en termes de composition des foyers, niveau d'études, etc. Et puis bien sûr aussi sur là, on est allé chercher les personnes dans différents lieux, dans Lyon ou aux alentours de Lyon, et qui avaient des modes d'approvisionnement qui étaient très variés, mais qui ont eu recours à des produits locaux. Donc après, à nous de voir, c'était de voir est-ce que c'était quelque chose de très ponctuel ou au contraire quelque chose de déjà installé. Et puis, je ne sais pas, donc, comme ça apparaît un peu bizarrement sur mon écran, mais donc, en fait, la démarche qu'on a essayé aussi, enfin, qu'on a employée, c'est qu'on a fait donc une première recherche donc participative pendant le premier confinement. Et puis ensuite, on s'est beaucoup questionné avec les membres et puis on s'est dit qu'on avait envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, on a sollicité le master en psychologie sociale appliquée de Lyon 2. Pour travailler avec des étudiants en psychologie sociale et voir comment on pouvait aller plus loin dans notre recherche. Et de là est venue l'idée de faire une étude plutôt longitudinale, donc c'est-à-dire de réinterroger les personnes qu'on avait déjà interrogées pendant le premier confinement pour un petit peu saisir la manière dont les pratiques qui avaient été installées ou bouleversées, en tout cas pendant le premier confinement, dans quelle mesure, est-ce qu'il y en a qui avaient perduré, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe, sachant qu'on est encore dans un contexte qui est incertain, qui est mouvant, qui est dynamique, donc un petit peu d'avoir une logique de trajectoire. Et donc, les étudiants, ils vont vous présenter quelques-uns de leurs résultats, mais sont allés réinterroger donc une partie du panel qui avait été interrogé une première fois. Donc on a environ la moitié des membres, enfin des membres, pardon, des mangeurs qui ont été réinterrogés pour cette deuxième phase qui s'est déroulée en décembre, donc pendant le deuxième confinement. Donc en fait, voilà, on voit un petit peu, on a des photos sur le premier confinement et le deuxième confinement de pratiques alimentaires de certains habitants. Je vais m'arrêter là pour cette première intervention, mais je pourrais revenir après plus en détail sur les résultats en tant que tel. Là, c'était vraiment pour montrer dans la globalité le pourquoi et le comment on a employé cette approche-là au sein de Belbouffe.
Ok. Je te remercie, Marie-Amandine. J'ai une question. Est-ce que tu juges opportun d'y répondre maintenant ou est-ce qu'on répondra un peu plus tard? La question, c'est Simon qui la pose, c'est ne faudrait-il pas interroger beaucoup plus de gens pour avoir de la représentativité?
Je peux répondre peut-être maintenant.
Ok, vas-y.
Donc en fait, nous, on a choisi d'avoir une approche qui est qualitative. Donc quand on est sur une approche qualitative, on ne vise pas forcément à avoir un échantillon qui soit représentatif de la population. Ça, c'est plutôt quand on a des approches quantitatives et qu'on va utiliser des méthodologies comme par exemple les questionnaires. Donc nous, c'était plutôt d'avoir un échantillon qui soit hétérogène. Donc on avait, quand on dit hétérogène, donc nous, on s'intéressait par exemple à l'âge, au genre, au lieu d'habitation, enfin voilà, à différentes variables, et de faire en sorte que bah, on ait un petit peu des différences entre toutes ces variables-là pour essayer d'appréhender de manière fine les vécus. Et l'idée, c'est pas après de nous d'extraire des pourcentages en disant, ben on peut dire que extrapoler à toute la population grande lyonnaise, hein, ça c'est pas ça l'idée avec une approche qualitative, mais c'est quand même de faire émerger des tendances. Et puis aussi, donc là, c'est quand même un nombre conséquent pour les personnes qui sont habituées aux études, 31 entretiens, c'est quand même un nombre conséquent. Et en fait, ce qui est important dans les approches qualitatives, c'est d'arriver plutôt à ce qu'on va appeler une saturation des données. Donc, c'est quand on voit que les discours commencent à se répéter. Là, on se dit qu'on a commencé à faire le tour et à atteindre voilà, quelque chose. Et donc, nous, on est arrivé à une saturation des données où, au final, bon, on aurait pu interroger plus de personnes, mais c'est vrai qu'il y avait après des choses qui ressortaient assez semblables au fur et à mesure des entretiens. J'espère que ça répond à la question. Mais on pourrait coupler avec une approche quantitative, par contre. Ça, c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
Il y a eu une question entre-temps qui a été posée par Béatrice pour Marie-Amandine. Je pense que ça peut être bien de la rapporter maintenant. Est-ce que Marie-Amandine, tu veux bien reprendre la parole pour répondre sur quel mode d'accès aux populations les plus précaires dans les quartiers prioritaires politiques de la ville vous avez, par exemple? Voilà, si vous l'avez eu aussi, hein, bien entendu.
Alors, c'est vrai que dans l'enquête, on n'a pas forcément eu énormément de personnes qui habitaient dans des quartiers politiques de la ville. On a quand même interviewé des personnes à Vénissieux, mais des personnes qui avaient recours à Alter Conso. Donc, c'est quand même c'était notre mode d'entrée pour accéder aux habitants qui se situaient plutôt à Vénissieux. Donc après, je pourrais pas forcément répondre, ou alors je veux bien un peu plus d'informations sur, enfin, la question. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté dans notre échantillon de population, même si on a eu un échantillon qui était, comme je disais tout à l'heure, hétérogène, on a vu qu'au final, c'était quand même beaucoup de personnes qui étaient, mais les étudiants en reparleront tout à l'heure, mais qui avaient un certain profil et certaines attentes et certaines pratiques alimentaires.